Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Grand Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux. Littérature et bière glacée.
Grand Clair Café.
On lit, on voyage, on revient.
Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
Grande Fleur Café par Hugues Robert.
Bonsoir, bienvenue sur le Grande Fleur Café. On est le 14 juin et ce soir, on va vous parler d'une chose assez particulière. On va vous parler d'un légume qui n'est pas qu'un légume. On retrouve Frédéric Fioloff. Je vais vous dire dans un instant pourquoi Frédéric Fioloff revient. Il fait partie de l'équipe de choc qui a inauguré en fait cette émission alors même que Grand Contrôle n'existait pas encore, qu'il y avait encore du plâtre à essuyer, des plafonds à cimenter. Frédéric Fioloff s'est dévoué en février dans le froid sibérien. Il était là et il est revenu. Pourquoi ? Parce qu'il m'a fait découvrir très récemment une revue de création littéraire qui s'appelle Artichaut, dont nous avons ce soir deux des animateurs principaux, Justine Grangeard et Laurent Baruc. Revue assez incroyable, revue consacrée à la jeune création, qui repose sur un principe que l'on va étoffer peu à peu au cours de la soirée, mais qui invite un auteur ou une autrice, un artiste, et qui ensuite compose un numéro avec 10 textes issus d'appels à textes. Un premier numéro l'année dernière, qui s'appelait sous le signe des révolutions au pluriel. Un deuxième numéro à l'automne dernier sous le signe de personne, avec tous les jeux de mots possibles qu'on peut imaginer, et un numéro qui sort aujourd'hui même sous le signe du point. Donc merci tout d'abord à Frédéric Fioloff de m'avoir permis cette découverte. De but en blanc, tout de suite, Justine Grangeard, comment cette revue est née ? C'est quelque chose d'assez étonnant, une revue consacrée à la jeune création.
Elle est née du sentiment d'un manque. Quand moi-même j'ai voulu publier en revue, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. J'ai trouvé des belles choses, mais aussi un espace libre pour une nouvelle création. Et j'étais moi-même dans l'édition, j'avais envie de porter un projet. Ça a été l'occasion. Voilà.
Donc comment vous avez procédé en fait pour rassembler les compétences et puis pour peut-être ce premier appel à texte pour Révolution, puisque c'est pas évident. Enfin, on sait qu'effectivement il y a des auteurs et des autrices qui souhaitent publier, mais encore faut-il qu'ils trouvent les canaux et que la qualité soit au rendez-vous. On va en reparler tout à l'heure.
Bien sûr. Pour le premier appel à texte, on a beaucoup exploité les réseaux sociaux. D'abord, j'ai constitué un comité de lecture avec 7 sensibilités très différentes, des gens qui viennent de milieux artistiques, littéraires, mais qui portent des visions assez différentes de la littérature et qui viennent de milieux différents au sein de cette grande famille. Et avec chaque nouveau membre du comité, c'était un nouveau carnet d'adresses, des nouvelles personnes à qui communiquer l'appel à texte. Et ça a donné quelque chose d'assez hétérogène et c'est ce qu'on voulait, en fait.
Alors si c'est pas indiscret, si c'est pas un secret de fabrique absolu, pour le premier numéro, donc pour récupérer 10 textes que vous avez choisi de publier, combien vous en avez reçu ?
On en avait reçu
25, si
25, ouais.
Ouais, donc
25 à 30, je crois. Ouais,
ouais, dans de la vingtaine, à peu près.
Donc c'était pas énorme, hein, et c'était pas dit qu'on trouve des textes tous bons dans ce lot-là, et pourtant ça a été le cas. On a même eu le choix, il y a même des textes qu'on a aimés et qu'on a dû refuser. Donc on s'est sentis très chanceux.
Cela dit, si je peux me permettre, c'est pas tout à fait 10 textes en fait, c'est aussi ce qui tient dans la maquette. On aurait pu se permettre d'en prendre plus ou moins selon les formats.
Si on a des plus courts, enfin...
Ouais. Voilà, dans les deux premiers c'est 7 auteurs invités et dans le troisième c'est 10.
Alors la revue est en plus d'une très très belle qualité technique, hein, avec... un superbe cartonnage, un cahier central donc, qui est consacré à l'artiste invité, où il y a des reproductions en couleur donc, de différentes œuvres, qui peuvent être... Bon, il y en a eu deux, c'était du travail sur photographie. Des choses très étonnantes, hein, Fanny Begeli dans le premier, dans le deuxième... Il faut que je parle en face du micro, par contre. dans le deuxième, Sung Wan-ho.
Oui.
Et puis dans le troisième, dont on va parler un peu plus ce soir, Jean-Paul Morel-Armstrong.
Oui.
Donc ça donne effectivement une touche, c'est un objet qui est très graphique, cette revue Artichaut. Alors là, je ne résiste pas, avant qu'on parle davantage du contenu, pourquoi Artichaut ?
Tout le monde nous posait la question. Maintenant, nous, on répond avec un petit silence amusé. Généralement, la personne enchaîne en nous expliquant son interprétation de pourquoi nous, on a choisi Artichaut. Et ça part dans tous les sens. On aime bien recueillir ces histoires. Donc, Hugues, je te retourne la question. Qu'est-ce que ça t'évoque, l'artichaut ?
Il me semble avoir vu des indices. Alors, soit sur le site, soit peut-être dans l'édito du numéro 1, parce que chaque numéro démarre par un éditorial, en fait, hein, qui à la fois indique peut-être les intentions par rapport au thème, ouvre des portes et puis permet justement de laisser rêver un petit peu sur ces mots qui sont des mots interprétables en tout sens. Alors artichaut, effectivement, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de feuilles, d'une part. Donc
certains voient les feuilles d'abord, d'autres voient le cœur.
Ou le fond.
Oui, et puis il y a le foin aussi, c'est pas la partie la plus... Ouais. Après, c'est vrai qu'une fois qu'on a écarté les feuilles, enlevé le foin et mis un bon morceau de beurre salé sur le cœur, là, c'est le bonheur.
Et Coluche disait qu'il en restait plus dans l'assiette après. Donc finalement, ça fait réfléchir aussi sur le...
Ouais, c'est une autre nourriture. Et on disait que c'était la nourriture du pauvre, justement, pour ça. Parce qu'il en restait plus dans l'assiette à la fin qu'au début.
Donc on va continuer en se consacrant un peu plus au numéro 3. Et on va demander, bien entendu, à Frédéric Fioloff lui-même comment il nous a rencontrés.
Grande Flore Café. Hugues Robert.
Parce que Frédéric, tu es toi-même animateur donc d'une revue qu'on a déjà évoquée dans cette émission, La Moitié du Fourbi, qui en est à son 7e numéro, le 8e est en cours. Comment s'est fait la rencontre donc, avec Artichaut ?
Sur le marché de la poésie, il y a un an. C'est-à-dire pas la semaine dernière, enfin le week-end dernier, mais il y a un an, où effectivement il y a un espace réservé aux revues, jeunes et moins jeunes, et on y allait depuis 2 ans. Et Artichaut faisait sa première apparition sur ce marché. Et voilà, on s'est rencontrés dans ce cadre-là, dans l'amitié des revues. Et bien évidemment, on a toujours des choses à se dire entre revues. Donc on a échangé. Et c'est à partir de là que j'ai pu découvrir cette revue dont j'ai beaucoup aimé les deux premiers numéros. À l'époque, il y en avait deux. Et voilà, donc c'est à travers ça, le marché de la poésie.
Et du coup, tu es maintenant l'auteur invité du 3e numéro.
Oui, alors j'ai eu ce grand honneur. J'étais en fait, on discutait avec Justine, on échangeait sur puisque la revue La Moitié du Fourbi, même si on fonctionne différemment, puisqu'on fait pas ce travail tout à fait important par ailleurs d'appel à texte. Donc il y a une inscription qui est différente dans Artichaut, dans cette volonté de soutenir aussi systématiquement des jeunes écrivains pas encore publiés. Mais on a aussi un petit peu cette parenté sur la question du thématique. On part, et Artichaut et La Moitié du Fourbi part d'un thème, d'une proposition, d'une mèche comme ça. Donc on a parlé de ces choses-là. Et quand j'ai simplement manifesté de l'enthousiasme sur la thématique du 3e numéro, point, que je trouvais très belle, j'étais presque jaloux. Je me suis dit, ça aurait aussi pu être, même si ça aurait été traité différemment, un beau sujet pour La Moitié du Fourbi. Et voilà. Et vu que Justine et Laurent, je crois, cherchaient un auteur invité, face à mon enthousiasme, peut-être que ça les a... ils m'avaient un peu lu par ailleurs, et ça les a incités à me faire cette proposition.
Mais je vais te dire, même ce qui m'a convaincu, c'est qu'on en a discuté, toi et moi, de ce thème, et on discutait de l'approche, des approches possibles de points. Et au départ, je me posais la question d'un texte assez oulipien, assez abstrait sur point. Et tu m'avais dit, je sais pas, moi je pense qu'on peut faire quelque chose de très différent, de beaucoup plus étonnant sur ce texte-là. Et le fait de t'inviter, c'était aussi une manière de découvrir ce à quoi tu pensais. Et on n'a vraiment pas été déçus.
Ouais, à ce moment-là, je pensais encore à rien de précis, mais c'est vrai que je me disais que c'était un beau sujet qui évoque plein de choses. Bon, je pense que... on en reparlera peut-être, mais qui peut-être présentait le risque d'appeler des textes un peu trop exclusivement centrés sur un jeu formaliste ou sur des choses qui allaient, oulipiennes, comme tu le dis, ce qui était une option possible, mais pas la seule. Je trouvais qu'il y avait des choses à creuser là-dedans, voilà.
En découvrant ce troisième thème, en fait, parce qu'évidemment, comme ce sont des mots, hein, que vous choisissez, des mots qui sont des concepts et qui sont riches, qui sont multivoques, hein, pour effectivement, enfin, j'imagine notamment ne pas coincer en fait les autrices et les auteurs sur une interprétation unique. Thème dont on a déjà parlé en fait avec La Moitié du Fourbi, dont on a aussi parlé avec les éditions Antidata quand ils font des éditions des anthologies collectives de nouvelles sur un thème, de garder un thème qui permet du jeu, enfin, et du jeu sur les sens. Mais en revanche, quand j'ai vu Point, je me suis immédiatement souvenu d'une présentation faite il y a 2 ans de ça en fait chez Caribde, donc à 400 mètres d'ici, dans le cadre tous les mois du libraire invité. C'est Maïs de Kerangal qui donc présentait 7 livres et avait choisi parmi ces 7 livres un livre de Peter Zendi qui s'appelle À coups de poing, P-O-I-N-T-S. Fait sur la ponctuation comme langage, sachant que Peter Zendi est un type assez étonnant. Il y a ce côté que mentionnait Frédéric Fioloff à l'instant, formel, presque oulipien, quelqu'un qui est un vrai théoricien critique du son, de l'utilisation du son. Il a écrit aussi un livre qui s'appelle « Surécoute, esthétique de l'espionnage », qui est quand même quelque chose d'assez magnifique dès le titre. Et sur cette question du point signe de ponctuation, il avait donc fait un ouvrage remarquable, ce que nous avait rappelé Maïs de Kerangal. Donc c'est à celui-là que j'ai pensé en premier, moi. Oui, je répondais un peu plus longuement qu'à la question sur Artichaut, en fait, sur le point. En tout cas, alors la deuxième chose qui m'a frappé en lisant ce troisième numéro, c'est qu'on commence à voir quelques auteurs récurrents qui commencent à arriver dès le troisième numéro. Alors comment ça se produit? Comment ça se gère?
Alors,
il se trouve que c'est un pur hasard, en fait, puisque on procède de la manière suivante. Justine reçoit tous les textes par mail et ensuite elle les rend anonymes et les met dans un fichier que nous, ensuite, autres membres du comité de lecture, recevons. Et on les lit vraiment sans savoir si c'est un homme, une femme, quelqu'un de plutôt jeune, quelqu'un de plutôt âgé, quel milieu socio-culturel. Donc nous, ça nous laisse que le texte pour juger. Mais évidemment, certains, on a plus ou moins reconnu que c'était, voilà, stylistiquement, oui. Ça ne faisait parfois aucun doute. Mais c'est aussi un pur hasard, voilà. Parfois, c'est
mais
agréable.
Mais quand les membres du comité me posent la question pendant les débats, je refuse de répondre.
Quand on dit « Ah, je suis sûr que c'est lui, je le sais. »
Je parie que c'est lui.
Tu ne confirmes ni n'infirmes dans
ah,
ce
oui,
cas-là.
Non. On essaie de garder ça jusqu'au bout, même si effectivement, c'est pas un système infaillible, ça nous semble important.
C'est vrai que c'est un procédé assez différent de celui utilisé par la Moitié du Fourbi. Alors, l'autre chose qu'on retrouve, et là, en revanche, ça fait un véritable point commun, je trouve, avec La Moitié du Fourbi, hein, pourtant d'une optique très, très différente, mais c'est la grande variété des formes, en fait, et des registres que vous recevez et acceptez, en fait. C'est pas du tout une revue de nouvelles, c'est pas non plus une revue de poésie, c'est pas une revue d'essais. C'est une revue de création, mais on sait qu'il peut y avoir des essais créatifs, hein, bien entendu. Et on retrouve finalement un peu de tout ça, avec en plus des variations sur la forme. Il y a des textes qui sont très courts, parfois, 2-3 pages, et puis il y en a qui sont déjà beaucoup plus amples. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur de favoriser cette variété, ou au contraire, c'est l'accident des textes qui viennent?
Oui, on voulait cette hétérogénéité dès la constitution du comité de lecture, évidemment, et c'est quelque chose qu'on encourage et qu'on favorise. On considère qu'on n'est pas là pour donner une vision unique de ce que devrait être la littérature selon nous. D'ailleurs, on s'entend pas là-dessus au sein du comité, donc on aurait bien de mal à le faire.
Les sensibilités différentes dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi l'occasion de s'écharper quand on fait la délibération, parce que justement, on n'aime pas forcément les mêmes formes, on n'aime pas forcément les mêmes styles, et c'est intéressant aussi, cette sorte de pluralité.
Oui, ça crée un vrai espace de d'échange. Moi, il y a des textes sur lesquels je n'étais pas du tout convaincue, que Laurent a adoré, et en discutant de ces textes-là, j'ai commencé à avoir l'intérêt, et puis maintenant, c'est des textes que j'aime beaucoup.
Et inversement.
Donc, on voulait aussi cet espace de dialogue-là.
Donc, je vais citer un des textes en fait du troisième avant qu'on reparle tout à l'heure de Frédéric Fioloff. Il y a effectivement de voir coexister donc dans le même numéro de revue de la poésie donc en vers libre, hein, mais avec une mise en page et une typographie caractéristique en fait de la poésie contemporaine. Et puis à côté de ça, un texte magnifique qui s'appelle Exemple de télescope narratif, hein, de Guillaume Sorensen, et qui est un de ces textes qui réussit à jouer sous une forme de nouvelle, c'est-à-dire sur une forme quand même très courte, de ce que font en général des romans beaucoup plus lourds, c'est-à-dire de jouer avec le texte, les notes de bas de page, qui démentent en fait ce qui est écrit dans le texte ou qui introduisent le doute. Et donc il y a, en 8 pages un jeu absolument passionnant où la lectrice ou le lecteur se dit mais qui est en train exactement de me parler et qu'est-ce que c'est, et ça d'une façon en même temps très élégante où les différents éléments en fait sont ensuite passés en revue pour essayer de fournir le paratexte, sachant que le paratexte lui-même est évidemment plein de doutes a été miné en fait dès le départ. Et c'est un texte effectivement qui surprend parce que il n'est pas classique pour un texte de création où on s'attend plus effectivement à avoir des variations de type prose poétique. Et là, on est sur quelque chose qui est très qui est rare en nouvelles, enfin je trouve en tout cas.
Je pense qu'on est tous très fiers d'avoir eu ce texte pour notre numéro 3, et c'est un texte qui a fait débat, beaucoup. C'est pas un texte, je pense que c'est un texte certains l'adorent tout de suite, d'autres le détestent. Il faut prendre le temps de le lire et de le relire et de le savourer parce qu'il est, complexe. Et
parce que c'est aussi un texte, oui, quand, à la première lecture, on ne sait pas justement tellement sur quel pied danser.
Ouais.
On est à chaque fois qu'on commence à s'habituer au texte, la forme change un peu, il y a des jeux, des renvois. Et c'était un...
Et puis le narrateur joue avec le lecteur énormément dans ce texte-là. C'est un peu une sorte d'abus du lecteur. Quand j'en parlais avec Guillaume Sorensen, moi, ce qui m'était venu en tête, c'était le bavard de Desforêts avec ce texte-là. Et il n'a pas démenti cette filiation.
Si je peux dire un mot aussi sur le débat que vous avez. Alors, bien sûr, je n'ai pas fait partie de la sélection de ces textes et tout, mais ça me fait rebondir sur des questions qu'on se pose aussi, nous, au Fourbi, dans notre comité de rédaction. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est le fait que sélectionner des textes, je pense, dans une revue, et c'est peut-être ça l'intérêt, ça traduit bien les écharpages que vous évoquez, c'est pas être dans le consensus mou. C'est-à-dire, c'est au contraire peut-être accepter, soit sous une forme ou de vote, ou parce que quelqu'un va argumenter devant d'autres pour un texte qui va pas forcément être aimé apprécié au même niveau par les autres, pour qu'il y ait des textes avec une forte personnalité qui apporte quelque chose de différent. Et je trouve que dans ce sens-là, Artichaut est une revue très courageuse et qui fonctionne bien de cette manière-là.
Donc, en tout cas, cher public du Grandflore Café, il est clair que je vous encourage vivement à vous procurer les 3 numéros de cette revue dès que vous le pourrez. Je pense que vous serez comme moi vraiment impressionné par le fait que sur ces 30 textes, et je parle des textes donc, qui ne sont pas ceux des artistes invités et des auteurs invités, donc pas d'auteurs confirmés, mais d'auteurs réputés débutants ou à peu de choses près, c'est vraiment impressionnant de se dire que c'est des textes qui sont donc des premières publications, des deuxièmes publications, et qu'il y a une telle qualité, une telle variété. C'est vraiment, enfin, moi j'ai vraiment été surpris. Honnêtement, je m'y attendais pas. Je me disais, bon, ça, même si le comité de lecture est très très exigeant, il va y avoir des textes un peu poussifs, ça va sentir le débutant. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment magnifique. Et donc, on va passer à un autre thème dans un instant.
Grandflore Café. Hugues Robert.
Voilà, moi j'avais cette fois une question pour le comité de rédaction, donc pour les éditeurs. On a entendu donc Frédéric Fioloff parler de sa rencontre avec Artichaut. Et vous, pourquoi vous l'avez choisi comme artiste invité donc pour ce troisième numéro?
Oui, on a déjà un petit peu évoqué ce point. Il y a quelque chose de circonstanciel en fait. Hein. On se retrouvait régulièrement avec Fred sur les salons. On sympathisait. On avait effectivement beaucoup de choses à se dire entre revuistes. Et j'avais évoqué comme ça au détour d'une conversation. Mais tiens, nous pour le numéro 3, on pense que le thème ce sera point. Qu'est-ce que t'en penses? Et Fred avait été très enthousiaste. Et je ne m'attendais pas forcément à cet enthousiasme-là, peut-être. Je pense que ça m'a touchée et on s'est revus, on a discuté longuement de ce thème et je lui ai proposé de venir sur ce thème-là. Et il nous a fait un texte absolument, il a écrit un texte l'instant T qui est sublime.
Magnifique, on va y revenir. Mais la question que je me posais, en fait, mais que c'est moi qui n'ai pas été suffisamment clair, c'est que également, est-ce que l'existence donc de ces textes précédents, donc soit en fait ceux qui sont parus dans la moitié du Fourbi, soit de son roman La magie dans les villes, donc chez Kidam, est-ce que ça guidait aussi votre choix ou est-ce que c'était vraiment plus lié à votre relation en tant que revuiste.
Ah non, bien sûr, j'avais lu la Magie dans les villes et je suis lectrice de la moitié du Fourbi. Donc j'avais adoré la Magie dans les villes d'ailleurs et on en avait déjà parlé avec Frédéric. Et évidemment, et d'ailleurs l'auteur qu'on va inviter sur notre numéro 4, c'est quelqu'un qu'on a contacté parce qu'on a adoré son roman. Voilà.
Bon, mais effectivement, la Magie dans les villes, qui est un texte magnifique, dont on avait parlé dans le tout premier Grande Fleur Café ici même, en évoquant effectivement ce ton très particulier qui fait qu'on ne sait pas toujours sur quel pied danser, mais que tout le long, on est à la fois songeur et en même temps assez hilar, en fait, face à tout ce qui se produit dans la vie de ce magicien urbain qui cherche à réenchanter le monde à sa manière. Et... Pardon. Donc, Frédéric, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les circonstances, si tu le souhaites, sinon on passera à autre chose, mais sur ce texte, donc l'instant T, comment il est né, en fait, comment il s'est inscrit dans cette correspondance, en fait, avec le souhait d'Artichaut.
Alors, je trouvais le thème lancé point très, très beau, avec, comme je disais, ce risque peut-être de... Enfin, un risque que j'envisageais pour moi-même tout aussi bien, hein, de peut-être trop l'enfermer dans quelque chose de formel, de ludique. Et j'avais envie d'écrire. Bon, donc parfois l'écriture traverse aussi des expériences de vie. Enfin, en tout cas, moi, j'assume ces connexions possibles. Et voilà. Et donc finalement, c'est devenu un texte assez personnel où j'ai joué avec, pour moi en tout cas, avec ce que Point peut évoquer. Évoqué, hein, point final, point de départ, point comme ce qui est la négation aussi de ce qui existe, hein, le point comme pas négatif, donc ce qui n'existe plus, etc. Bon, et j'ai raccroché à des choses qui se produisaient pour moi à ce moment-là. Bon, c'est assez clair puisque le texte parle essentiellement de ça, une expérience de deuil. Entre guillemets, en même temps, relativement classique, qui consiste pour quelqu'un bon, qui avance un peu en âge, a pu avoir personne derrière lui, voilà. Et c'est autour de ça que c'est tourné. Donc on va dire, bon, en même temps, c'est pas un exercice que peut-être, c'est quelque chose que j'aurais peut-être trouvé plus difficile à mettre en œuvre sans avoir justement cette petite contrainte, cette idée de tourner autour d'un point pour évoquer ça. Et puis j'ai essayé, je suis parti là-dessus. Et voilà, c'est un peu comme ça que ce texte est né. La rencontre entre ce petit point et un gros moment de vie pour moi, on va dire, et comment on peut parfois faire passer des choses importantes à travers le chat d'une aiguille. Et c'est un petit peu ce jeu qui s'est fait là. Après, il y a d'autres choses. Il m'a semblé... trouver un rythme, une langue, quelque chose, et voilà. Et c'est comme ça que ce texte est rentré dans le point où on est sorti, je ne sais pas.
On ne va pas trop le déflorer, parce que pour les auditrices et les auditeurs qui sont présents sur place à Grand Contrôle, dans un peu plus d'une heure, il y aura une lecture musicale, en fait, sur la grande scène de l'espace Charolais. Donc surtout, rejoignez-nous à ce moment-là, ce sera magnifique, je n'en doute pas. L'écriture de l'instant T, il y a vraiment des choses qui sont frappantes. C'est qu'il y a, dedans effectivement un déroulé, une histoire. C'est pas seulement un poème, c'est aussi une nouvelle, c'est aussi une histoire, c'est aussi une réaction face à quelque chose qui se produit, hein, comme disait Frédéric, et une gestion du deuil, même si le mot gestion est évidemment là comme partout particulièrement atroce. Mais il y a à l'intérieur de ce déroulé, de ce récit, il y a une formidable crispation poétique. Il y a un sens de la formule, en fait, qui est très étonnant, j'ai trouvé, dans un récit de ce type, où tout à coup, il y a des phrases qui se détachent toutes seules et qui viennent vous heurter de façon particulièrement forte. Et quasiment dès la cinquième ligne, il y a une phrase qui moi, me marquera, je pense, pour longtemps, qui est « Faut-il s'en prendre aux soustractions ?» Point d'interrogation. Phrase mystérieuse à la cinquième ligne, et pourtant qui tout de suite donne quelque chose, indique une direction et nous dit de quoi, finalement, enfin, sur quoi va porter une partie du questionnement intime, en fait, de ces 10 pages. Donc vraiment, bravo, hein, Frédéric Dioloff, c'est un très très beau texte que tu nous as offert.
Merci. Et merci à Artichaut de m'avoir mis le pied à l'étrier pour l'écrire.
Alors, j'ai une petite question pour les lectrices et l'éditeur d'Artichaut également. D'abord, est-ce que le thème du quatrième numéro est secret ? Est-ce qu'il est déjà décidé ?
Non, pas du
tout. Il est loin d'être secret, puisque c'est l'occasion de rappeler que l'appel à texte est ouvert. Et il court jusqu'au 16 août.
16 août minuit.
Et le thème est donc Arcane, au pluriel, avec un S. Arcane, voilà. On n'en dit pas plus, parce que on ne veut pas influencer, comme on l'a dit au début, là, on joue aussi sur cette pluralité-là, et on ne veut pas que les gens se sentent... Et a envie de penser que nous, on veut que ce soit dans tel sens ou tel autre. Mais du coup, voilà, Arcane. Les seules contraintes, c'est avant le 16 août, minuit, 20 000 signes maximum espace comprise. Et
de passer bien par le site pour l'envoyer, de ne pas me l'envoyer à mon adresse mail personnelle, s'il vous plaît.
Voilà, donc toutes les infos à retrouver sur le site ou sur la page Facebook.
C'est 20 000 signes maximum. Est-ce qu'il y a un minimum qui,
Non, les haïkus sont acceptés.
D'accord. Bon, c'est bon à savoir. Alors, je voulais mentionner également deux autres caractéristiques étonnantes, en fait, d'Artichaut, qui sont un peu déroutantes au début et puis qui donnent une épaisseur supplémentaire à la revue. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure l'éditorial, hein, qui est toujours à la fois intelligent et malicieux, hein, dans sa façon de tourner autour du mot ou du concept qui a été choisi pour le numéro. Il y a deux autres particularités, c'est que chacun des textes proposés voit suggérer un accompagnement. Donc juste sous le titre, à chaque page, il y a un accompagnement qui peut être un texte, qui peut être une musique, qui peut être un film, qui peut être une sculpture, qui peut être une œuvre graphique. Et simplement, alors peut-être que c'est mentionné quelque part, mais je ne l'ai pas retenu, en tout cas, comment viennent ces accompagnements ?
Non, c'est pas mentionné, donc tu n'as rien raté. C'est une discussion avec les auteurs et autrices sélectionnés. En fait, on leur demande de nous proposer, de nous faire des propositions d'accompagnement, en leur disant que c'est complètement ouvert. Dans le numéro, on a même un lieu qui est proposé comme accompagnement, la visite d'un lieu. Et puis on en discute. Généralement, on n'en discute pas tant que ça, d'ailleurs. Hein.
Non,
la proposition plutôt... des auteurs et des autrices est parfaitement cohérente. Et...
Mais effectivement, on ne la demande qu'aux auteurs qui sont sélectionnés. C'est le petit ajout en plus de leur biographie qui aide aussi un peu le lecteur à voir dans quel univers il se situe.
Oui, c'est assez étonnant parce que, alors, il y a évidemment les cas où la lectrice ou le lecteur connaîtra l'œuvre qui est mentionnée, mais il y a aussi bien entendu des situations où on ne la connaît pas.
C'est encore mieux.
Donc on va effectivement chercher à se renseigner un petit peu pourquoi cet accompagnement est proposé. Et puis il y a ce côté magique, c'est que comme toute lectrice ou tout lecteur, je suppose, hein, sur un texte relativement court, qui sont pas des textes ou qui sont rarement des textes univoques, hein, qui sont des textes qui ont de l'épaisseur. On a fait un choix en le lisant, on y a vu certaines choses, surtout la première lecture. Et puis, éventuellement, l'accompagnement vient dire complètement autre chose. On se dit, zut, qu'est-ce qui se passe ? Ça ouvre des nouvelles pistes. Enfin, c'est vraiment c'est une très, très belle idée et très stimulante, hein, j'ai trouvé. Et l'autre particularité, là, et c'est la première fois que je vois ça dans une revue de création littéraire, c'est qu'à l'avant-dernière page, donc, il y a figure une bibliographie, en fait... donc des livres, en fait, qui sont proposés alors par le comité, cette fois, nous dit-on, pour accompagner, renforcer, creuser, explorer davantage ce qui a été proposé par les auteurs, en fait, dans le numéro. Et je trouve ça très étonnant. Est-ce que vous pourriez nous dire comment c'est venu, ça aussi, cette biographie, en fait ?
Ben, je pense que c'est à peu près la même démarche, finalement. C'est aussi proposer... soit à la découverte, parce que c'est aussi intéressant que le lecteur qui ne connaît pas forcément ces références-là puisse aller creuser de son côté, soit retrouver des choses qu'il connaît déjà et qui lui feront penser au thème. C'est un peu notre petite bibliographie suggestive pour élargir un peu les champs du thème. En général, on tombe d'accord, enfin, chacun propose une série de choses, des œuvres déjà existantes qui lui évoque le thème, et parfois on tombe d'accord sans le savoir. Enfin, on propose la même chose.
Et puis c'était le fruit de nos discussions aussi. Au début, on ouvre le plus possible les thèmes en évoquant toutes les choses différentes qui pourraient nous venir. On spécule un peu sur ce qui va nous venir. Parfois, on se gourre complètement. On imagine qu'on va recevoir beaucoup de textes de tel type, et puis c'est pas du tout le cas. On est surpris, c'est génial. Je pense que la bibliographie, c'était aussi un moyen pour nous d'exister un petit peu dans ce numéro, parce qu'on laisse la parole complètement aux auteurs et autrices. Et c'était peut-être un moyen pour nous aussi de mettre notre petite patte. Voilà.
Alors juste pour appâter, si j'ose dire, les auditrices et les auditeurs, enfin, je ne vais pas citer intégralement la biographie donc, de ce troisième numéro sous le signe du point, mais on y trouve par exemple Le Flatland d'Edwin Abbott, Une brève histoire du temps de Stephen Hawking, La chambre claire de Roland Barthes, Le fabuleux L'ancêtre de Juan José Saer, La nuit remue d'Henri Michaud, ou encore Une brève histoire des lignes de Tim Ingold. Donc vous voyez qu'il y a, même sur un petit échantillon de cette biographie, un éclectisme assez réjouissant en fait, qui se dégage de cette biographie, finalement à l'image de la revue elle-même. Et donc, puisque l'heure tourne et qu'on approche déjà de notre fin, surtout, plongez-vous dans cet éclectisme.
Je voulais, si je peux juste dire un petit mot, là je reprends la panoplie du lecteur d'Artichaut, non plus de la froide guest star, mais il y a aussi, puisque tu l'as évoqué, la question de l'édito. Il y a, c'est Justine qui les écrit, je pense. Les éditos d'Artichaut sont magnifiques, quoi. C'est vraiment, et c'est étonnant parce que ça pourrait, on pourrait penser sous le nom d'édito à quelque chose qui relèverait d'un petit résumé, d'un petit. Et je trouve que, enfin, il y en a peut-être d'autres qui le font, mais en tout cas, c'est vraiment frappant dans Artichaut. C'est vraiment, elle fait œuvre de l'édito. Quoi. C'est-à-dire, c'est quelque chose à la fois qui met en bouche, mais où elle va pouvoir évoquer des choses qu'on ne retrouvera pas spécialement dans la revue, mais qu'il a dans le numéro, mais qu'il est réinscrit néanmoins le numéro quelque part. Enfin, il y a vraiment là, une vraie grâce dans les éditos d'Artichaut. Voilà, je voulais dire ça.
Tout à fait. Je peux mentionner dans ce cas que j'ai été particulièrement frappé par celui du numéro 2, donc personne, et notamment par en moins de 3 pages, hein. Il y a un véritable jeu en fait que développe Justine Grangère avec Simone Veil en fait, en jouant donc sur les métaphores et sur le renvoi de métaphores pour en faire quelque chose de très personnel, de très engagé, de très combatif. Alors que le thème personne n'est pas justement le thème révolution du premier numéro. Donc il y a vraiment une grande subtilité et une élégance dans la façon de tourner ça. Effectivement, je rejoins totalement ce que dit Frédéric Fioloff. C'est le 12e ou le 13e texte en fait qui est proposé dans la revue. C'est l'édito, bien entendu.
Rien que pour l'édito, on pourrait acheter là.
Donc voilà, en tout cas, cette revue donc se trouve effectivement par correspondance dans certaines librairies choisies, dont Caribde et dont, pour l'instant, également le Gros Contrôle ici même. Donc surtout, si vous êtes dans le coin, rejoignez-nous à 20h en fait sur la grande scène pour une lecture musicale qui devrait être un moment assez spectaculaire. Et puis, on ne vous retrouvera pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est la fête de la musique, et on a accepté de s'effacer provisoirement, nous autres littératures. Merci beaucoup, Frédéric Fioloff, d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, Justine Grangère. Merci beaucoup, Laurent Baruc. Et encore bravo pour ce travail donc, de Artichaut, une revue de création littéraire contemporaine, surprenante et gracieuse.
Mais merci de nous avoir reçus.
Grande Flore Café. Hugues Robert.
Libre et curieux. Libre et curieux.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.